tel qu'il est énoncé dans le programme en tout cas, d'autant plus que j'en suis le seul responsable. En effet, il était tentant au départ de se donner comme programme de recherche pour cette intervention l'analyse des rapports entre Bentham et le réalisme juridique, notamment en ce qui concerne la place du juge et de ses décisions au sein du système juridique, ou encore la théorie prédictive développée tout d'abord par les réalistes américains. Tentant, mais aussi beaucoup trop vaste, sans parler des problèmes méthodologiques, de comparer un auteur à un courant de pensée extrêmement varié et non unifié. Le choix de me concentrer sur les rapports entre la pensée de Carl Olive Cronin, telle qu'il l'expose dans Law Abstract, et celle de Bentham, présentée notamment dans Flows, s'est rapidement imposé pour une raison finalement assez simple. Il est clair que Carl Olive Cronin a réellement lu Bentham. Ce qui m'intéresse est réellement la théorie du droit que ce dernier a élaborée. C'est donc bel et bien la lecture que Olive Cronin effectue de Bentham qui va m'intéresser aujourd'hui. Elle est d'autant plus intéressante qu'elle implique de réévaluer chaque pensée en fonction de l'autre. C'est pourquoi je commencerai par m'intéresser à la caractérisation qu'Olive Cronin effectue de la pensée bentamienne, pour ensuite m'attacher à montrer que, si cette dernière est assez fine, elle reste basée sur un contexte interprétatif qui néglige complètement la richesse de l'analyse fictionnelle à laquelle se livre Bentham. En d'autres termes, non seulement elle réduit le concept de fiction à un simple outil critique de la procédure juridique, mais de surcroît, elle ne saisit pas les implications de la distinction entre entité réelle et fictive sur l'élaboration par Bentham d'une théorie du droit. Ceci notamment car Olive Cronin ne saisit pas les liens avec l'ontologie et la théorie du langage. Ce qui est d'autant plus paradoxal que l'analyse langagière à laquelle se livre Olive Cronin à la fin de Law Abstract pourrait servir de point de rencontre avec les positions défendues par Bentham. Donc Olive Cronin, O-L-I-V-E-C-R-O-N-A, pardon. Donc le plus frappant peut-être, et pour moi le plus réjouissant, est probablement qu'Olive Cronin cherche à comprendre Bentham sans aucune référence au principe d'utilité. En effet, il se concentre uniquement sur les concepts juridiques à l'œuvre dans la pensée benthamienne, indépendamment de toute référence à l'utilité. Alors pour l'anecdote, ceci on n'a pas apparemment choqué plus d'un, puisque l'exemplaire sur lequel j'ai travaillé pour préparer cette intervention, comportait un certain nombre d'annotations, notamment les suivantes, qui se situaient à la fin du premier paragraphe par Van Bentham, faux, rien sur l'utilitarisme. Évidemment, on pourrait interpréter cette non-référence à l'utilité comme une erreur d'interprétation ou un simple parti pris. Il me semble au contraire qu'elle révèle une démarche spécifique qui vise d'une part à séparer strictement le droit de toute considération morale et de reconnaître cette distinction chez Bentham, et d'autre part, à se concentrer sur l'examen des concepts juridiques dans la sphère du droit, ou comme le dit Olive Cronin, dans le monde juridique. Cela implique bien qu'il considère que le principe d'utilité n'est pas nécessaire pour comprendre les concepts juridiques élaborés par Bentham et de manière plus générale pour comprendre sa théorie du droit. Law Abstract se propose en effet d'analyser de manière conceptuelle, généalogique et critique les différentes théories juridiques. Olive Cronin considère ainsi que Bentham est à la fois le représentant principal du courant de pensée représentatif de l'Angleterre, mais également qu'il est le premier grand positiviste. Il le définit comme un empiriste et souligne qu'il existe un lien profond entre sa théorie et le réalisme. Olive Cronin centre son analyse sur la définition que Bentham donne d'une loi, à savoir l'expression de la volonté du souverain dans un État. Le souverain pouvant être une personne ou un ensemble de personnes, et tirant son pouvoir de fait, et ce dernier s'appuie sur l'habitude d'obéissance. Il reconnaît que Bentham essaie de dépasser les théories du droit naturel en tentant de décrire le droit en termes de faits sociologiques, ainsi qu'en séparant très clairement le droit et la morale. Pourtant, en centrant son analyse du droit sur le concept de volonté, Bentham, selon Olive Cronin bien évidemment, ne tient pas ses promesses et s'inscrit dans les courants de pensée traditionnels. Ainsi, chaque loi consiste en un commandement ou une interdiction, ce qui implique que toute affirmation concernant les lois, et de manière plus générale, toute affirmation concernant le droit, peut être exprimée par une proposition concernant les commandements et les interdictions. Olive Cronin identifie ainsi ce que Bentham appelle les aspects d'une loi. Afin de s'assurer du respect de la volonté du souverain exprimée à travers la loi, elle prévoit de s'appuyer sur la peur des punitions. Le problème qui se pose alors à Bentham, et que met en avant Olive Cronin d'ailleurs, est un problème d'ordre généalogique. Comment une volonté peut-elle être transmise d'un souverain à l'autre? Bentham a alors recours à la théorie de l'adoption. Le souverain en exercice s'approprie les lois des souverains précédents, il les fait siennes grâce aux actes du gouvernement qui vont permettre de maintenir ces lois en vigueur. Le dernier point concernant la loi comme expression de la volonté du souverain est que cette volonté concerne la conduite de ses sujets. Il est alors nécessaire que la loi soit connue de tous, et pour cela, il est possible d'utiliser tous les moyens. La loi peut être communiquée au sujet à travers différents signes langagiers ou non. Mais de mon point de vue et pour le propos qui est aujourd'hui le mien, ce qu'il nous faut retenir de cette analyse n'est pas tant la réduction de la théorie du droit benthamien à la définition d'une loi comme expression de la volonté, qui est certes fondamentale, mais qui ne saurait résumer l'ensemble des positions de Bentham et la finesse de sa pensée, mais bel et bien l'insistance d'Olivier Cronat à situer Bentham dans une filiation théorique plus ou moins directe avec les théories du droit naturel. Ce qui me semble important ici est la volonté d'Olivier Cronat d'annihiler la distinction entre théorie du droit naturel et positivisme, ou plus précisément sa tentative de déplacer les frontières théoriques d'interprétation des grands courants juridiques. Ainsi, il substituait à la distinction entre positivisme et théorie du droit naturel celle de théorie volontariste et non volontariste. La dernière particularité de la lecture qu'Olivier Cronat effectue de Bentham est la reconnaissance de l'analyse fictionnelle du droit à laquelle se livre ce dernier. Ainsi, les premières remarques concernant Bentham soulignent sa critique du contrat social, qui n'est qu'une chimère, pour ensuite insister sur la critique benthamienne des positions de Blackstone notamment, et plus généralement de la common law, qui s'appuie sur une formidable non-entité, la loi de nature. J'aurais dès à présent tendance à dire que Olivier Cronat se contente, même si le terme est un peu fort, de remarquer l'analyse fictionnelle de Bentham sans en tirer les conclusions et sans se poser la question du statut des fictions au sein de la théorie du droit benthamienne. Les fictions ne sont alors ici considérées que négativement. Il me faut pourtant modérer mes propos, car Olivier Cronat se livre en effet une analyse plus précise de la théorie des fictions benthamiennes lorsqu'il s'intéresse au concept de droit au sein d'une théorie juridique. Pour lui, Bentham est le premier à endosser une position qu'il appelle théorie de la représentation et qui implique de reconnaître la non-réalité des droits. Pour Olivier Cronat, Bentham considère que les seules entités réelles juridiques sont les lois en tant que commandement du souverain et les actes des personnes réelles. Les droits et les devoirs sont des entités fictives créées par le droit est alors tissé de fiction. Mais Olivier Cronat voit une limite importante à la théorie des fictions benthamiennes. Bentham ne souhaite en effet, selon lui toujours, pas examiner le contenu des idées juridiques considérées comme fictives, il ne souhaite que percer le voile de mystère du langage. Ainsi, il lui reproche de ne pas tenter de définir les noms des entités fictives et de substituer au processus de définition perdez-nous cette différentiam, celui de la paraphrase qui est basée sur le fait que toutes nos idées dérivent des sens et qu'il n'existe qu'un seul moyen de les rendre claires, et qui est celui de remonter de l'idée aux objets sensibles où elle trouve son origine. Les droits et les devoirs ne sont alors que des entités fictives indéfinies et peut-être indescriptibles que crée notre imagination à partir de nos perceptions sensibles. Ce qu'Olivier Cronat reproche en fait à cette approche est qu'en supposant que les droits sont des images ou des représentations fictives, elles entendent se substituer aux normes juridiques. Il leur reproche de vider le terme droit de son contenu en le réduisant à une création imaginaire. Mais ce qu'Olivier Cronat veut montrer est qu'en fait, le mot droit ne renvoie à aucune représentation, à aucune image dans notre esprit. Il faut bien comprendre que la norme juridique est un impératif indépendant et que celle-ci a entre autres pour but de gérer la création, la modification, le transfert et l'annulation des droits. Dès lors, le droit est un élément de la norme juridique et ne peut en aucun cas se substituer à lui. En conclusion, nous pouvons donc dire que Olivier Cronat considère la théorie des fictions benthamiennes comme une théorie essentiellement critique, qui, loin de distinguer Bentham de ses prédécesseurs, le situe au contraire dans une certaine continuité, et les fictions ont alors pour but principal de nier l'existence réelle des droits, sans que cette négation ne soit réellement fructueuse dans l'élaboration d'un système juridique. Or, je vais justement m'attacher à montrer que l'analyse benthamienne est bien plus fine, puisque Bentham s'emploie à élaborer l'architecture fictionnelle du droit. La fiction, telle que Bentham l'utilise dans des ouvrages comme le Fragment sur le gouvernement, le Comment on the Commentaries, ou encore le Manuel des sophismes politiques, est ce qui recouvre d'un masque de mystère le droit. Le premier sens que l'on trouve chez Bentham est un sens négatif, effectivement, et les fictions sont une spécificité du langage juridique à l'œuvre, dans diverses procédures, les rendant ainsi obscures et mystérieuses. Alors Bentham s'érige contre de tels procédés qui sont une remise en cause du besoin de clarté, de vérité et de cohérence que toute personne est en droit d'attendre du droit. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que cette obscurité, cette volonté de masquer les véritables jeux d'intérêt à l'œuvre, peut prendre, tour de force on ne peut plus magnifique et pervers, l'apparence d'une exigence de transparence, l'apparence de rendre accessible la loi dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il s'agit de diffuser la croyance selon laquelle la loi doit être connue de tous, ce qui inverse complètement le rapport du citoyen au droit. Si le citoyen ne peut anticiper ses actions, ce n'est pas parce que la formulation du droit de chaque loi ne le lui permet pas, car elle est peu claire et utilise un langage incompréhensible, c'est parce qu'il ne la connaît pas, parce qu'il ne la comprend pas. Nous voyons bien donc le déplacement opéré par ce type d'argumentation. Elle absout le droit de toute critique et déplace le problème sur ses sujets. C'est exactement d'ailleurs le cas chez Blackstone quand il parle de la notoriété du droit. Contrairement à ce qu'avance Olivier Cronin, il ne me semble pas possible de rapprocher les positions benthamiennes des doctrines du droit naturel. Au contraire, leur critique est au fondement même de la stratégie de Bentham, car la reconnaissance du caractère fictif du contrat social et des droits naturels pose un problème théorique important au sein de l'économie générale de la théorie du droit benthamienne. Si sa critique repose sur cette fictionnalité, il faut bien comprendre qu'elle s'intègre à la question de la validité d'un argument. Il y a donc une solidarité entre la question de la structure argumentative logique et valide et celle des fictions. D'un point de vue logique, la structure d'un raisonnement qui utilise une fiction a donc la forme suivante. Un antécédent faux se construit comme vrai au conditionnel, mais il ne permet en aucun cas de se prononcer sur la vérité ou la fausseté du conséquent. De plus, ce rejet théorique des théories du droit naturel devient l'expression des problèmes fondamentaux suivants. Bentham reconnaît que les noms des entités sont le socle conceptuel d'une théorie du droit et sont des entités fictives, mais s'il n'est pas possible d'analyser et d'expliquer les phrases utilisant ces noms, alors toute théorie du droit est vouée à l'échec, car elle ne se distinguera en aucune façon d'une théorie naturaliste, quelle que soit sa forme, et qu'il a par ailleurs rejetée. Donc, si Bentham parvient à rendre compte des entités fictives qui constituent le droit, sa critique des droits naturels qui en font des fictions ne suffit plus et ne permet pas de les distinguer du droit lui-même. Deux conditions sont alors nécessaires pour parler des droits. D'une part, ne pas confondre le droit tel qu'il est et le droit tel qu'il doit être, et d'autre part, disposer d'une méthode d'analyse qui permet de remonter des entités fictives aux entités réelles. Et c'est dans cette méthode que réside le passage d'entités fictives condamnables à des entités fictives que l'on pourra utiliser au sein d'une théorie du droit. Il devient alors nécessaire de parfaire la classification des entités et d'élaborer un outil permettant leur distinction. Chez Bentham, une entité est une dénomination qui peut comprendre n'importe quel sujet du discours et que l'on désigne à l'aide de l'unité grammaticale. La distinction entre entités réelles et fictives est constitutive de la théorie benthamienne du langage et n'est que la marque d'un défaut structurel du langage humain qui ne distingue pas la formule substantive des différents noms, faisant croire d'une part à leur équivalence et d'autre part à l'illusion qui consisterait à considérer que tous les noms sont liés à un être réel, que tous les mots désignent une chose existante. La réalité est ainsi liée au meaning et n'est pas la propriété des choses mêmes. Ce qu'il nous faut retenir est que l'entité fictive est pensée sur le mode du « comme si », on ne peut parler de l'entité fictive que « comme si elle était réelle ». Bentham distingue les entités fictives des entités fabuleuses et des non-entités qui correspondent alors aux fictions qu'il a attaquées précédemment. La typologie benthamienne vise à établir une classification du réel et à ce titre, il lui est nécessaire de penser les rapports entre entités fictives et entités réelles. C'est ainsi qu'il élabore l'idée d'ordre, de gradation des entités fictives. Bentham explique ainsi que l'on peut remonter d'une entité fictive à une entité réelle. Ériger la fiction au concept, c'est bien de cela qu'il s'agit, les transforme en outils analytiques et ne parvient non plus à discréditer un certain type de discours. Allons même plus loin, la valeur ou la validité des énoncés utilisant des fictions ne provient pas de la proximité avec la réalité, mais de la capacité à établir à l'aide de la paraphrase une analyse du concept auquel on cherche à donner un sens. C'est pourquoi Bentham élabore la méthode de la paraphrase dont Olivier Cronin ne semble à mon sens pas avoir saisi les enjeux. La paraphrase exprime ainsi à la fois le nom d'une entité fictive et une chose qui n'a pas de genre supérieur, plutôt que le fait que la seconde affirmation est vraie que parce que la première est. C'est leur conjonction qui va constituer ce qu'exprime la paraphrase. Nous devons donc comprendre la position benthamienne de la manière suivante. Le caractère fictif d'un mot est une condition nécessaire mais non suffisante pour empêcher sa définition par la méthode classique. Il est à la fois et en même temps fictif et non susceptible d'être défini. C'est la conjonction de ces deux états qui rend compte de la paraphrase. Pour bien comprendre également ce qu'est la paraphrase, il est nécessaire d'identifier le renversement qu'opère Bentham, la révolution copernicienne, comme l'a nommé Greene, dans la conception du sens du langage. La proposition est en effet première logiquement et chronologiquement par rapport au mot. Ce n'est pas l'assemblage d'atomes linguistiques que seraient les mots qui donnent sens à une proposition, mais c'est le sens de chaque mot qui est dépendant du sens de la proposition entière. Les mots doivent donc être compris comme les fragments d'une totalité, ils ne constituent pas les éléments primitifs du langage. L'existence même de la paraphrase s'appuie sur cette conception. Ce que Bentham parvient à penser grâce à la méthode de la paraphrase est le passage de droits naturels fictifs aux droits légaux réels. Se trouve ainsi conforté le renversement benthamien qui transforme l'expression « j'ai un droit naturel » à « j'ai un droit naturel à » par la loi majestique du droit de. Il n'y a pas de droit indépendant ou antérieur à ceux établis par la loi. Comme nous l'avons vu, les fictions ne peuvent être acceptables que quand elles peuvent être analysées. La question de la fictivité ou de la fictionnalité de certains termes n'est donc plus rédhibitoire. Il faut simplement savoir que l'on peut changer le papier monnaie en or si nécessaire, en suivant ici la métaphore benthamienne reprise par René Frenard. Ce qui est important est de savoir que l'on peut analyser les fictions juridiques lorsque cela s'avère nécessaire. Ceci a de lourdes conséquences, puisque l'analyse du mot droit fait bien apparaître que si un droit, right, est une fiction, le droit, law, est une métafiction chargée de l'agencement fictionnel du discours juridique. Enfin, le discours juridique étant désormais possible, la construction d'une théorie générale du droit constitue l'un des plus grands projets benthamiens et elle s'articulera autour du concept de loi nouvellement défini. Olivier Cronat est donc, si je puis m'exprimer ainsi, passé complètement à côté de la théorie des fictions benthamiennes et il sous-estime et ne comprend pas réellement ce qu'implique le processus de la paraphrase, alors que ce dernier aboutit à reconnaître la fictivité du mot droit et le fait que celui-ci ne renvoie aucune réalité, position que défend également Olivier Cronin. Le mot droit est tout à fait symptomatique des rapports que l'on peut entrevoir entre les positions de Bentham et celles d'Olivier Cronin concernant le langage, une sorte de rendez-vous manqué. J'aimerais donc terminer cette intervention par quelques remarques proposant trois pistes de réflexion autour du langage qui pourraient rapprocher nos deux auteurs, sans pour autant nier leurs différences profondes. Il me paraît cependant frappant que la conception du langage avancée par Olivier Cronin et son rapport avec le droit et l'analyse du système juridique n'est pas sans rappeler des positions soutenues par Bentham. Il me semble ainsi que Bentham et Olivier Cronin se rejoignent tout d'abord dans l'analyse de la force mystérieuse ou mystique que peuvent revêtir les mots. Ainsi, nous pouvons rapprocher ce que Olivier Cronin appelle la magie des mots de ce que Herbert Hart a appelé la mystification en parlant de la théorie benthamienne. Il s'agit dans les deux cas d'associer les effets magiques ou mystificateurs au discours et aux circonstances dans lesquelles il est prononcé. Ce point est central dans la théorie benthamienne, puisque nous pouvons comprendre son projet philosophique comme une tentative de démystification du langage, qui est le préalable à toute réforme. Nous comprenons également mieux sa volonté de réformer le vocabulaire juridique. Mais au contraire d'Olivier Cronin, qui tentera de débarrasser les mots utilisés dans le cadre juridique de toute force autonome et spécifique, Bentham va reconnaître cette force qu'il va associer à leur caractère fictif pour mieux tenter de les agencer au sein d'une théorie du droit au vocabulaire réformé. Le second point est que Olivier Cronin s'attache à distinguer les différents types de discours en recourant notamment à la théorie d'Austin et à identifier les énoncés descriptifs et les énoncés performatifs, et plus précisément en ce qui concerne le langage juridique, les énoncés performativement impératifs, si vous me permettez cette traduction. C'est cette théorie et l'analyse juridique qu'Olivier Cronin réalise sur cette base qui l'amène à considérer le langage comme un instrument essentiel pour influencer et guider la conduite, le comportement des gens. Ceci renforce à nouveau l'idée que le langage peut avoir une incidence réelle et des conséquences pratiques. Bentham identifie donc à la fois les différents types de discours, d'énoncés, prescriptifs ou descriptifs, mais également les différents niveaux de langage, c'est-à-dire la distinction entre métalangage et langage-objet. Ces quatre distinctions vont se révéler primordiales non seulement pour expliquer les raisons qui ont poussé Bentham à constituer une nouvelle branche de la logique de la volonté, mais également pour tenter de penser la constitution de la logique de la volonté en logique déontique. Or, la logique de la volonté est ce qui va structurer logiquement la théorie du droit benthamienne et participer à le constituer comme système de contrôle social. Ce qui nous amène à mon dernier point, qui est que nos deux auteurs reconnaissent au langage le statut d'outil de contrôle social. Comme le souligne Olivier Cronin, je le cite, le langage juridique n'est pas un langage descriptif, c'est un langage directif qui exerce une influence et qui est un instrument de contrôle social. Cette influence s'exerce par la transmission de l'information et Bentham reconnaît également au langage cette fonction. C'est dans l'étude du panoptique et notamment du panoptique des pauvres que l'on peut clairement voir que le langage sert à assurer à l'institution un contrôle sur ses membres. Mais Bentham va plus loin, si le langage juridique doit revêtir un caractère impératif, c'est pour mieux refléter sa structure logique, qui devient un outil dans les mains du législateur pour établir le droit comme système de contrôle social. Bentham fait donc voler en éclats, d'une certaine manière, certaines analyses de Louis Cronin, mais celui-ci fait ressortir des points essentiels de la théorie du droit benthamienne et nous amène à reconstruire l'architecture fictionnelle et la structure logique de cette dernière. Il existe en fait une espèce de relation d'interdépendance interprétative entre nos deux auteurs. Olivier Cronin n'est cependant, à mon sens, pas en mesure de comprendre l'architecture fictionnelle de la théorie du droit benthamienne, et il n'est pas plus capable d'identifier la structure logique de cette dernière. Ceci est d'autant plus dommageable qu'elle aurait pu servir sa réflexion. Cela ne me semble néanmoins pas réellement possible dans l'économie de sa pensée, étant donné la place qu'il entend attribuer à Bentham dans la généalogie des systèmes juridiques. Finalement, ce que Olivier Cronin ne peut reconnaître, c'est la richesse du système benthamien et les implications de sa théorie du langage et de sa définition d'une loi. Cette confrontation met en jeu la question du caractère essentiellement et immédiatement obligatoire de la loi. Ne pourrait-on en effet pas défendre que Bentham reconnaît qu'une loi n'oblige celui qui lui est soumis qu'à partir du moment où il reconnaît son caractère obligatoire? Quelle est l'interprétation de la partie sanctionnante ou combinatoire d'une loi chez Bentham? S'agit-il d'une théorie prédictive, probabiliste ou d'une conclusion normative? Et plus généralement, une interprétation de sa théorie, cela questionne une interprétation de sa théorie de la punition. Néanmoins, et malgré ces quelques réserves, le point le plus remarquable, à mon sens, de la lecture d'Olivier Cronin est sa volonté de comprendre la pensée benthamienne à l'aide de concepts juridiques et sans faire appel au principe d'utilité. Et ceci confirme la reconnaissance de Bentham comme un véritable et un grand théoricien du droit. Merci.